il rentre, il l'a fait. Alors, il a écrit, comme il était sioniste fervent, mais il savait qu'il est sous le joug russe, Staline. Il était, comme on dit, diplomate. Il a écrit un petit livre dédié à Staline, en russe et en ukrainien. Il l'a envoyé à Moscou. 3 semaines après, il a reçu une invitation avec un billet gratuit de se présenter au Kremlin. Je ne sais pas s'il aurait... Mais lui, il aurait été diplomate jusqu'au bout. Et s'il avait vécu, il aurait été quelqu'un. Ça,
il y a d'autres choses, je voulais vous demander des précisions. Vous m'avez dit que toute la famille était très sioniste.
Oui.
Est-ce que vous étiez dans un mouvement sioniste précis?
Oui.
Lequel?
À ce moment-là, il n'y avait pas de différente.
Il n'y avait pas la chômère.
Moi, j'étais dans la chômère, oui. Quand j'étais gosse, j'étais dans la chômère. Ah, oui. Et à 12 ans, j'étais déjà Roche-Koutsa. J'avais déjà mes camarades à peu près de mon âge, que c'est moi qui m'occupais d'eux. Parce qu'on m'a trouvé la plus développée. Vous comprenez? Et quand j'ai passé, à quel âge? À 13 ans, j'avais mon certificat d'études. À 14 ans. Avec mention très bien. Dans une école polonaise. Parce qu'il y avait une école juive. Mais arrivé à la 6e classe, parce que chez nous, ça va première, deuxième, jusqu'à 7.
Oui.
Il n'y avait plus ni de 6e ni de 7e. Alors, on était deux filles. Qu'on était rentrée dans la 6e, une fille dans la 7e, cette fille est... Le diplôme, le certificat, mais que j'appelle mes parents. Il a pleuré avec des larmes aux yeux, il a dit... Une élève comme Rosette, Parouchka, on m'appelait Parouchka, Parouchka, Rose, je n'en aurais plus. Parce qu'il m'a estimé, j'ai à la fin de la classe, aussi bien dans la 6e comme dans la 7e, j'ai récité quelque chose à la fin de l'année et j'étais applaudie. Donc je lui ai fait honneur, vous comprenez, il était tellement content. Le pauvre homme, il a été aussi fait pendu par ça. Ou autre chose, il était patriote.
Et alors, après cette école, vous avez été au lycée alors
à Plotsk. Oui, 3 ans. J'ai passé l'examen.
Mais là, c'était au lycée juif ou au lycée polonais?
Lycée juif. Au lycée polonais, je n'aurais pas pu entrer dans la 6e classe. Je n'étais que 3 ans. Ayant mon certificat d'études, il y avait un maître de Plotsk aussi, qui était maître d'école à Vichogrout, qui m'a donné un petit peu de leçons. D'abord, latin, je ne connaissais pas. Mm-hmm. On n'apprenait pas l'école communale de latin. Et un petit peu, enfin, il m'a préparé pendant quelques mois et je me suis présentée à l'examen. Et quand moi, j'ai passé l'examen dans la 6e classe, ça veut dire 3 ans avant les bachots, il y avait un garçon qui voulait rentrer dans la 7e. Comment il s'appelle, je ne me rappelle pas. Un autre Borenstein, Tunyalse, qui voulait rentrer dans la 5e. J'étais la seule à avoir passé l'examen. Celui qui voulait dans la 7e s'est retrouvé avec moi dans la 6e. Celui qui voulait rentrer dans la 5e s'est trouvé avec ma cousine dans la 4e. Vous savez. Et moi, comme on était dans la même salle, le maître ne nous a pas surveillés, se disant chacune passe dans une autre classe. Chacun sera occupé avec son travail. Mais moi, j'avais fini mon travail et j'ai aidé à l'un et à l'autre. Mais malgré tout, je ne pouvais pas aider tout. Ils ne sont pas passés alors. Et je n'étais pas... Je ne vais pas me glorifier que j'étais des premiers élèves. Mais j'étais une bonne élève. Surtout, j'étais forte en physique, en maths. Et je me rappelle à l'examen. Même en latin, je n'étais pas bonne dans la grammaire. Vous savez, traduire du polonais en latin, là j'étais faible, j'avais une mauvaise note. Par contre, à l'oral, je ne sais pas comment les thèmes ou quoi, traduire du latin en polonais, j'avais la meilleure note, donc j'avais la bonne moyenne. Et j'étais la première parce que ce professeur, pour mériter une note bonne, il a fallu passer l'examen. J'étais la première à avoir cette bonne note après, sans passer l'examen. Roussac était très très bon élève. On avait un autre que Zoura. Nous étions trois. Zoura et Roussac, du mat, on avait 4 heures. Et ils sont sortis au bout de 100 heures, on avait 3 heures à faire. 3 ou 4 heures, je ne sais, je ne me rappelle pas, 3 ou 4 heures. Au bout de 100 minutes, moi je suis sortie au bout de 105 minutes. Et plus personne n'est sorti avant. Là-dedans, j'étais forte, mais je n'étais pas forte du tout. À me glorifier.
Et là, le bac, vous l'avez passé dans un lycée polonais, c'était le bac d'État ou...
Oui, c'est-à-dire on était, comme on n'avait pas la fréquence, on était neuf. Ils ne voulaient pas donner à un visitateur, ce qu'on appelle, pour neuf personnes. On nous a cooptés avec, fusionnés, avec une classe de garçons d'un lycée polonais. Mmh. Ils étaient d'une trentaine. Vous comprenez? Mmh. Et après l'oral, on a passé dans notre lycée, mais avec les directeurs de l'autre lycée comme inspecteur. Mmh. En allemand, j'étais forte. Et comme je me suis embrouillée, je me rappelle, dans l'histoire, la professeure d'allemand m'a posé une question historique en allemand, que j'ai très bien répondu. Et elle a dit, je me rappelle, à l'inspecteur, vous voyez, monsieur, je lui ai posé exprès une question historique. Et si je me rappelle encore, vous savez, des fois on oublie qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qui était dans le Moyen-Âge? Comment qu'on reconnaissait la richesse des paysans? Je dis d'après l'état du fumier. Parce que quand l'état du fumier était plus grand, ça veut dire qu'il avait beaucoup de vaches qui donnaient ces fumiers, beaucoup de bêtes. Et encore autre chose, enfin, alors il a souri, c'est-à-dire qu'il voulait les rattraper. Il m'a rattrapé comme ça. Et en maths, et je me rappelle, j'ai passé en même temps, le jour même, avec Tounia, on était trois à passer, et sa sœur, qui est en Israël. Quand on nous a annoncé, on nous a appelé pour annoncer qu'on a passé, elles sont restées bouche bée, comme si on les avait douchées. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors moi, je les ai attrapées toutes les deux. Mais embrassez-vous! Comme ça, je n'ai pas perdu les sangs. Les sang-froid, il dit « Embrassez-vous !» Oh, il y avait des fois des scènes qu'on se souvient. Vous savez, tout ce qui lie, tous les souvenirs de jeunesse sont beaucoup plus durables. D'abord, la mémoire était encore fraîche. Et maintenant, malheureusement, je mets quelque chose ici. Où que j'ai mis ça? Mais pourquoi faire que je suis venue chercher?
Le passé est gravé, que le présent peut s'oublier plus vite. Des choses qui se sont passées hier, on oublie plus vite que... Il y a des années.
Ça vous en fume pas?
Non, pas du tout.
On a des semaines.
J'ai des clients qui me demandent de fumer.
On ne fume pas, mais on a des cendriers procès par les fumeurs.
Bah oui.
C'est normal. Chez moi, c'est pareil, je ne fume pas, mais j'ai aussi des cendriers.
On a partout des.
J'ai deux ou trois cendriers pour s'il y a quelqu'un qui fume, c'est normal.
Alors, je voulais vous demander une autre chose. Vous m'avez dit tout à l'heure que. Votre père était maire de la ville.
Oui.
Il y avait un maire juif et un maire polonais?
Non, il a été d'abord maire de la ville. Il n'y avait pas de maire qui a été payé. Mm-hmm. Mais après, comme mon père devait quand même s'occuper de ses affaires, ils ont amené un maire,
oui.
qui était payant, un Polonais. Et mon père est devenu à ce moment-là vice-maire. Vous savez, adjoint ou vice-maire.
Adjoint
au maire. Et quand il avait des questions qui concernaient des personnes de la ville que lui ne connaissait pas, c'est toujours mon père qui prend en charge. Et même, par exemple, quand il y avait un malade qu'il fallait amener à Plotz, qu'il n'y avait pas d'hôpital chez nous. Mon père, même le samedi, signait. Vous savez qu'il a dit que c'est pour sauver une personne, il n'a pas de péché. Oh, il était très, très, très... Et chez nous, vous savez, c'était une maison, comme je vous disais, de bon Dieu. Alors, on avait des camarades. Les camarades de mon frère, le plus jeune, et celle de ma sœur, à moi, ils venaient presque tous les soirs. Et c'était, on faisait des jeux d'intelligence. Mon frère nous posait trois questions de littérature polonaise, ou d'histoire, ou trois questions de mathématiques. Celui qui répondait sur les trois questions était primé. Vous comprenez? C'était ça. C'était cette volonté de s'instruire, vous savez, de savoir plus. Après, quand il y avait déjà les jeux d'intelligence finis, on jouait aux échecs. Pas, moi, je ne savais pas où jouer. Aux dames, plutôt. Aux cartes. Et des questions écrites que... Je ne sais pas si ça existe ici aussi. Chacun écrit quelque chose de sa manière, suit son idée. Et la prochaine phrase, c'est l'autre qui écrit. Et après, on lisait, ça sortait de ça, une vraie cacophonie, vous savez. Parce que chacun suivait son idée, l'autre suivait son idée. Vous savez comment c'est quand on entend à la télévision, comment celui qui fait la réclame avec le fribidor, il n'entend pas, alors il y répond autrement. Oui. Vous savez que quand je suis venue à Varsovie, je regrettais ma petite ville. La vie était plus intéressante. On était tous ensemble. Tandis que Varsovie, c'était déjà froid. On n'avait pas cette intimité, ces groupes où passer ensemble. Mais heureusement que j'avais mes deux frères, alors là, je ne m'ennuyais pas. J'étais mon frère qui était déjà à ce moment-là revenu de ses études de Toulouse. Et l'autre qui faisait les études de choses. Et moi, je commençais la langue germanique. Je faisais deux ans d'études. Et je fais aussi un cours de commercial, sténographie, pour le bachelier. Un cours où j'ai aussi très bien fini. Tous les diplômes, j'ai resté là-bas. Il n'y a plus de traces. Très, très bien. J'avais les meilleures notes. 5, c'était la meilleure note.
Mais vous êtes allé à Varsovie juste après votre bac?
Non. Non, un an. Un an après.
Un an après.
Et je suis, pendant les vacances, j'ai gagné, comme j'ai fait en même temps la première année les cours de commercial, sténographie, écriture à la machine, dactylo, hein, ça s'appelle, sténographie polonaise, correspondance et comptabilité. Alors je suis revenue.
Cette année-là, la première année, vous l'avez fait à Plotsk alors?
Non, pas Plotsk, à Varsovie, j'ai fait aussi.
Vous avez passé votre bac, vous êtes resté un an
à Wyszogród.
Ah, d'accord.
Chez mes parents.
Vous l'avez passé à quel âge, ton bac?
Oh, j'ai eu 18 ans.
Et ensuite, alors l'année suivante, vous êtes partie à Varsovie.
Oui, je suis partie. J'ai fait, je crois que, oui, c'était ça. En 30, je crois que j'ai eu mon bachot. En 33, je suis partie. Et alors, un an, j'étais là. Et après, j'étais deux ans à Varsovie. La première année à Varsovie, j'ai fait le cours de comptabilité en même temps et j'ai gagné ma vie en donnant des leçons.
Des leçons
aux enfants de l'école communale, vous savez, où chez les uns j'ai gagné mon déjeuner, chez les autres j'ai gagné mon gîte, vous savez. finalement, j'étais dans une famille où même mon frère, il prenait les repas qu'il payait, où j'avais et la chambre et les repas du midi. Et le soir, je m'arrangeais moi-même.
Et mon frère avait aussi des chambres dans cette même famille ?
Non. Il avait ailleurs, pas loin de chez nous. Et lui, il ne donnait pas de leçons. Donc, au début, il donnait des leçons. Alors, quand on donnait une annonce, on donnait « student K », ça veut dire « étudiant, étudiante ». Cherche à donner des leçons, des détails, de ça et de ça. Alors, on se débrouillait comme ça. Et avant les vacances, lui, d'allemand, il ne pouvait pas me demander, me poser des questions, puisqu'il ne savait pas. Mais moi, j'avais son livre de code. Après, j'étais après aussi avec mon frère bien-aimé, l'autre qu'il avait ailleurs. Et tous les deux frères étaient là-bas. J'ai donné aussi des leçons la deuxième année. Et mon frère, il est venu manger, c'est lui qui faisait le droit. Il ne voulait pas aller manger payant, parce qu'il voulait économiser pour s'acheter un livre d'études. Alors je dis, viens, moi je vais te faire un livre ici. Comme je faisais à mon frère, l'autre, on va manger tous les trucs. Et j'arrangeais comme on pouvait. C'était pas très riche, mais c'était modeste, on ne mourait pas de faim.
Est-ce que vos parents ne voulaient plus vous envoyer d'argent là, vous
c'était... Tout seul. Non. Mon frère, il gagnait. Je vous ai dit qu'il travaillait chez un très grand fabricant de vin pour toute la Pologne. Et alors lui, il gagnait et il, pour ainsi dire, il nous aidait encore à nous. Et de Pologne,
c'est lui qui avait fait ses études en France.
En France, oui. Et comme il a vu qu'il ne peut pas obtenir une place là-bas, il est revenu ici croyant pouvoir, mais il n'a pas pu obtenir ça. Alors il travaillait, il faisait la comptabilité chez des amis qu'on connaissait encore de notre, pas de notre ville, de Plotsk, parce que le père de ce monsieur, il était aussi marchand de machines. Le père et son père et le nôtre, ils travaillaient tous les deux chez Saint-Germain. L'autre était à Plotsk et mon père était à Dijon. Et l'antisémitisme était tellement grand qu'on répandait là-bas que les juifs prennent les sangs chrétiens pour mettre dans les matzahs, que chez nous, comme on avait, vous savez, les appartements n'étaient pas disposés comme ici, de l'entrée, mais là c'était à la file, à la queue, alors nous on avait les dépôts des machines, comme elle était un petit peu éloignée, donc il fallait traverser toutes les pièces quand c'était avant Pâques. Il y a une paysanne qui venait, c'est ici qu'habite M. Gmar? Oui, je voudrais acheter une machine. Alors on dit, venez, madame, on va vous montrer. Quand elle a vu qu'on traverse une pièce, une autre pièce, la troisième pièce, oh, elle dit, je viendrai déjà après les fêtes. Elle ne voulait pas aller plus loin. Parce que vous savez, cette fable, les juifs qui n'ont pas le droit de tuer eux-mêmes, du point de vue d'éthique, de morale. Parce que quand on apprend à prélever les sangs d'une bête, on peut avoir envie, dans une circonstance qui se présente, faire quelque chose de plus grave. Donc il faut que ce soit un homme sacré qui sait tuer les bêtes de la manière de les faire souffrir le moins possible. Vous comprenez? Tandis que là, à la campagne, quand j'étais, on arrache un œil d'un lapin, on tue comme ça, on n'a jamais vu ça. Et les Polonais, ils venaient chez les tueurs sacrés, ramasser les sangs des canards et des oies. Ils faisaient le boudin avec, ou la kachanka, ça veut dire avec de l'orge.
Il y a une phrase qui dit, tu ne tueras point.
Ah, mais c'est les lois de Moïse, comme moi, vous savez, je ne parlerai pas du mal de Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ qui a dit de persécuter les Juifs. Puisque lui, lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Ô Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'était le Romain Ponce Pilate qui l'a crucifié. Pas parce qu'il voyait en lui l'ennemi de la richesse romaine, puisque lui, il prêchait l'abolition de l'esclavage. Et c'était les Juifs, les Hébreux, qui ont aboli l'esclavage chez eux les premiers. Alors, maintenant, si Jean 23 avait vécu, ils auraient reconnu Israël comme État. Ils l'auraient reconnu, parce qu'il était très, très bon. Je ne sais pas si vous avez...
L'actuel pape, hein.
L'actuel pape, je crois, il est meilleur. Je crois. En tout cas, il est allé à Auschwitz, qu'aucun l'a fait. Et il s'est incliné à la tombe, il a dit des croyants et des non-croyants. Vous savez, l'État polonais, le gouvernement polonais, il a reçu un couteau. Et c'est plutôt le russe. Parce que vous croyez que les Polonais, ils aiment le russe, ils n'aiment pas le russe. Oui, le vieil ennemi, oui. Tout à quoi ils ont dépassé la Pologne. Vous savez, dans la littérature polonaise, qu'est-ce qu'on a étudié, les livres, Krowadis, Sienkiewicz, c'est un écrivain polonais qui a écrit, et la trilogie, Les Croisés, Ogień i Mieczyń, Pan Wolodyjowski, et encore je me rappelle plus.
Et je reviens en arrière, mais cette fonction de maire qu'avait votre père,
oui.
Il était élu.
Ah oui, il était élu par les élu. Mais comme il ne pouvait tout de même pas remplir toutes les fonctions, oui. Vous comprenez, et qu'il devait quand même gagner plus que ce qu'il aurait reçu là-bas, quand c'est un étranger, on donne, puisqu'il faut lui donner les logements, il faut lui donner tout. Alors, il a abandonné. Le premier poste. Il était conseiller, vous savez. Et parmi les conseillers, il était élu.
Et sa fonction de président de la banque, c'était
président d'une banque artisanale juive.
C'est ça,
oui. Qui était sous les auspices d'une banque de Varsovie, vous savez.
Alors ça, il a été nommé par le siège de Varsovie.
Oui, par le siège de Varsovie. Ils sont venus prendre des renseignements, comment il est. Alors, quand il a appris quelle personnalité de juif, c'était la personnalité la plus marquée, la plus marquante. Ça, il n'y avait pas d'autre. Il y avait des riches plus riches que nous. Oui. Mais... Et on avait toujours, tout le monde disait... On avait un bel appartement, un vieux. Et toujours, même dans des temps que je vous ai raconté, que maman me faisait des fritures, des grands poissons farcis, c'était toujours la nappe. Toujours vous savez, pour mettre les verres, vous savez, des petits supports pour les cuillères, fourchettes. Toujours, jamais vous. Même pas seulement les samedis, les jours des fêtes, mais tous les jours. Alors, un jour, celui qui était notre associé, il a été chez quelqu'un, il a dit, et c'est quelqu'un a dit, Omar, c'est une famille riche. Oh, il dit, je ne sais pas, comme lui, il venait souvent chez nous, il voyait qu'est-ce que nous mangeons. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites, quelqu'un nous a raconté après. Vous dites, les plus riches, chez eux, on mange une soupe, même des pauvres, vous savez, c'était Harvest with Fat, ça veut dire des pâtes grillées avec des haricots. Pâtes grillées avec des haricots fricassés, tout ça. Il est tombé une fois, il a vu qu'on mangeait ça. Et ça s'appelait une soupe pour le pauvre. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas ce que vous voulez de ces gmar. Chez eux, on mange Arbesmitterfou avec une cuillère en argent. Et vous, ils voulaient nous disqualifier, comment dire. Enfin, ça, c'est, vous savez, dans une petite ville. Ce n'est pas qu'ils voulaient nous disqualifier, non. Mais pour nous enlever de cette auréole qu'on avait, vous comprenez.
Et vos parents respectaient toutes les fêtes. Il y avait deux vaisselles dans la maison pour les
Oui. Et même pour Pâques, c'était mon travail du temps que je me rappelle, d'aider à tout ranger. De ramasser les morceaux de pain, parce qu'il y a le père doit, avec une petite pelle, ramasser sur chaque coin où on pouvait trouver les restes de chometz et de les brûler. Et c'était moi qui devais sortir la vaisselle de fête et après la ranger aussi. Alors je me rappelle la dernière année en 33, après Pâques, puisque je suis venue ici en mois de novembre, octobre-novembre, je crois. Elle a dit, l'année prochaine, je te souhaite que l'année prochaine tu fasses aussi. Après elle dit, qu'est-ce que je dis, mais tu ne seras plus là. Et là-bas, je ne crois pas que tu fasses la même chose. Parce que nous, un jour, elle nous a eu, il y avait toujours samedi, pour chauffer les manger. Il y avait une pauvre femme qui restait devant l'église. Oui, l'église. Alors, ma mère, quand elle allait à la synagogue, elle lui disait, vas-y là-bas, faire le feu. Et puis, elle venait ajouter. Un jour, elle était malade, elle n'est pas dans un bon moment, elle n'était pas à côté de l'église, elle est demandée l'aumône. Alors ma sœur s'inquiétait, elle a fait le feu, elle a jeté au feu, et puis ma mère elle a dit, tu sais, je ne l'ai pas vue. Alors ma sœur a dit, elle est venue, elle l'a fait, tu lui as donné un morceau de poisson, un bout de chave, un bout de gâteau. Je dis oui, maman, je lui ai tout donné, t'en fais pas. Mais un jour, quand elle est revenue devant l'église, elle dit, Madame Gouard, vous savez, ça fait longtemps que je n'étais pas chez vous, j'étais malade. Alors, maman, elle est revenue, elle dit, qui c'est qui était le Shaïgitz? Shaïgitz, ça veut dire c'est elle qui a fait ça. Alors, elle ne répond pas. Elle savait que moi, je ne m'occupais jamais de ça. Ma mère, elle me disait, va à tes livres, occupe-toi de tes livres, ne t'occupe pas d'autre chose. Tout juste que j'ai aidé à faire les ménages, vous savez, quignoler. Alors, c'est toi, Annette, tu as commis un péché, mais écoute, ma fille, tu as encore un mariage devant toi. Qu'est-ce que tu veux là? Il n'était pas fanatique. Elle a dit, pour me dire, quand je me rappelle, on avait une aussi de Plotsky, une maîtresse, qui habitait chez nous. Tous les maîtres d'école qui venaient de Plotsk et qui n'avaient pas encore où habiter, ils habitaient chez nous parce qu'on avait un grand logement. Vous comprenez? Alors, elle habitait chez nous, chez Imanouna, oui. Et un jour, elle me dit, Rosette, tu as des camarades avec qui tu es bien? Je dis, oui. Ben écoute, dis-leur, venez les samedis à l'école. Mais ne dites pas vos parents. Je vais vous faire une conférence. Elle nous a fait une conférence, qu'il n'y a pas de Dieu, que tout ce sont des phénomènes de la nature, que le tonnerre et l'éclair, et ce sont des nuages de différentes, un qui a l'électricité, qui est chargé d'électricité plus, l'autre moins, qui quand elle se rapproche, elle se tape l'une dans l'autre, et ça fait le tonnerre, et ça fait l'éclair, et tout, et que c'est un pouvoir magnétique, et que ça peut tuer les morts, enfin tout ça. Bon, alors, quand elle a appris que nous faisons déjà le feu, elle a dit à ma sœur, écoute, tu as encore un mariage devant toi, et les gens disent que quand une jeune fille, même qu'elle a commis le péché, si elle fait les jeûnes le jour de son mariage, tous les péchés lui sont annulés. Mais si tu fais quelque chose, elle dit, ne les fais pas que je les sache, que je ne les vois pas. Parce que maintenant, moi, je vais mourir avec la croyance en Dieu. Je croyais en Dieu jusqu'à maintenant, laissez-moi mourir comme ça. Et moi, je voulais la convaincre. Je lui dis, maman, écoute, on dit, il ne faut pas travailler samedi, d'accord. Mais dans les temps de Moïse, ou plus tard même, pour faire une étincelle, il fallait travailler, frotter une pierre contre une autre, jusqu'à une étincelle sorte. Mais maintenant, tu allumes l'électricité, c'est pas du travail. Tu prends une allumette, c'est pas du travail. Alors elle m'a répété, laisse-moi mourir, fais ce que tu veux. Vous êtes une jeune génération, vous savez plus que nous. Mais au moins, quand je ne laissais pas, je n'emporte pas les péchés. Mais si je laissais et je vous laisse faire, c'est moi qui me ramasse les péchés. Et elle m'a été très, très intelligente. Pas de grandes instructions. Elle avait aussi, comme elle était la 12e, je vous ai dit, une famille.
Les grands-parents, vous les avez connus, vos grands-parents?
J'ai connu les deux grands-mères, mais pas les grands-pères. Ils étaient morts très jeunes. Un qui avait 42 ans et l'autre qui avait 48 ans. Un qui est mort, je ne sais pas de quelle maladie, celui du père de mon père. Et le père de ma mère, en 48, il y avait le choléra, l'épidémie de choléra. Et on donnait des médicaments pour enrayer le choléra, que ceux qui ont contaminé meurent. Alors, il y avait un, comme il a vu qu'un tel est malade, il est mort, un tel est malade, il est mort, et pourtant on lui a donné des médicaments. Quand on lui donnait les médicaments, il l'a jeté dans l'armoire, il a brûlé une partie de l'armoire. Vous comprenez? Alors, il dit, moi, je ne prends pas ça. Mais mon grand-père, il a dit, non, moi, je le prends. Je ne vais pas contaminer les autres. Et il a demandé encore, il a fait lui-même la prière avant de mourir. Et comme s'il avait pressenti qu'il n'arrivera pas au mariage de sa fille. Son fils, il était déjà marié, le plus long. Et sa fille, non, elle a dit, je voudrais quand même savoir dans quelle main ma fille tombera. Et alors, c'est pour ça, et ma mère, elle avait 14 ans lorsqu'elle était fiancée avec mon père. Mon père avait 15 ans et elle avait 14 ans. Mais ils se sont mariés, elle avait 18 et lui, il avait 19.
Ils se connaissaient tout petit.
Mais ils étaient des cousins, oui. Alors, je vais quand même savoir. Et 14 semaines après, c'était le choléra. Il était mort. Et il y avait une misère pour ma grand-mère et ma mère. Elle l'a raconté, moi, je ne l'ai pas senti. Et ma sœur, elle sait. Elle a enregistré pour son fils tout. Moi, je vais faire un signe. Que ma mère, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait 14 ans. Ma grand-mère, elle n'avait pas de métier. Alors, comme il n'avait pas de quoi vivre, l'oncle, il avait sa femme, puis il avait des enfants déjà. Elle allait chez la boulangère, elle demandait sinon pas du vieux pain pour les chats, pour les poules, pour tout ça. Elle trempait ce pain dans de l'eau salée et mangeait ça. Un jour, il y avait une voisine, pas du quartier, mais enfin de la ville qu'il connaissait, qui était couturière.
Dans
la même ville, couturière. Et elle a demandé, elle voyait que ma mère a mauvais goût, tout ça. Alors, et qu'est-ce que tu fais? Oh ben, vous savez, ma mère, elle est malade. Et tu ne voudrais pas apprendre quelque chose? Elle dit oui. Elle l'a pris comme apprenti. Elle était très, très gentille, une polonaise. Et quand elle a vu un jour qu'elle est allée, elle est rentrée avec un paquet qu'elle a acheté chez le boulanger. Elle a compris quand elle a dit c'est pour les poules, c'est pour tes. Elle dit raconte pas d'histoire. Je sais ce que c'est. Je te paye. Va à la maison et achète pour Sabbat ce que vous avez besoin. Et quand elle lui payait tous les vendredis, et quand elle avait fait une robe, elle l'envoyait pour qu'elle reçoive les pourboires, vous savez. Et elle a vu que ma mère était très douée. Très, très douée. Elle lui a montré comment couper. À d'antan, on ne coupait pas comme maintenant avec des patrons. On prenait les centimètres, on prenait les mesures, le tissu, on mesurait ça, puis tout de suite, vas-y, je te coupe. Elle lui a montré comment. Et ma mère était très douée. Elle est devenue après couturière. Elle a dit, écoute ma fille, débrouille-toi d'avoir une machine, prends à la maison et tu travailleras, tu seras à côté de ta mère et tu gagneras pour toi. Ça, et ma sœur, elle connaissait. Moi, je me rappelle, vous savez, comme dans un nuage, cette femme, mais très, très gentille. Alors, ma mère, elle a fait ça, elle a commencé à faire des petites choses. Et après, elle était tellement douée que quand, quand on habitait déjà là où je suis née, ils ont déménagé quand la famille, moi j'étais déjà la dernière, la sixième, c'était déjà trop petit. Ils ont déménagé là où, d'où ils sont partis. Et il y avait deux sœurs, non, une qui était femme de ménage, une pauvre femme, que son mari travaillait aussi, vous savez, dans le travail manuel très dur. Et sa belle-sœur était déjà devenue un peu plus riche, elle s'était fait une robe. Comme nous, comme je vous ai dit, on habitait à Lac-Touba et la chaussée, c'était comme une allée qui menait à Varsovie. Tout le monde venait se promener. Alors, cette pauvre dame qui était notre voisine et qui venait des fois travailler, laver les linges chez nous, elle a dit, oh, qu'est-ce qu'elle a comme belle robe, moi aussi je voudrais avoir. Mais moi, jamais je pourrais avoir. Elle a dit, écoute ma fille, attends, un jour où je la verrai passer, je regarderai bien qu'est-ce que c'est comme robe et tu auras une pareille. Elle dit, mais elle va se fâcher. Elle dit, mais je ne lui demande pas de me montrer la robe chez moi à la maison. Si je suis capable de copier, elle ne peut rien me faire. Il n'y a pas qu'une robe d'un modèle. Alors, elle a vu passer, se promener un dimanche avec cette belle robe. Quand l'autre est venue, attends, achète du tissu, peut-être pas les mêmes, mais je te ferai le même modèle. L'autre est venu attraper ma mère. Pourquoi qu'elle lui a fait le même modèle? Elle dit, est-ce que tu as fait une marque déposée? C'est pas une marque déposée. C'est très doué. Nous, elle nous habillait tous. Seulement, elle avait un défaut. Comme elle savait, malgré qu'on disait qu'on est riche et qu'on ne l'était pas, qu'on ne peut pas se permettre d'une année à faire une autre robe et une autre robe, elle faisait long. Elle faisait ici des... Vous savez, je me rappelle, comme aujourd'hui, je pouvais la porter 8 ans, vous savez. Oui, elle était une brave femme, ménagère. Moi, je suis un peu comme elle. Elle adorait la belle literie, elle adorait le linge, elle adorait tout ça. Moi aussi, j'aime ça. Mais, vous savez, on a déjà dormi ici, tel que vous voyez petit que c'est, on a dormi déjà 10 personnes. J'avais fait on a passé un nouvel an ici avec des amis. J'avais fait ici, là, chez nous, là-bas ou dans la chambre de mon fils, il y a un canapé qui s'ouvre qu'on peut même dormir à trois. Enfin, j'ai arrangé, on était 10 à dormir ici. Oh non. Mais l'amitié qu'on a, vous savez, du jeune âge, moi je ne sais pas comment les Roussacs y sont. Oui, je sais, on s'embrasse, mais je regrette. Ça n'est plus la même amitié. Moi, je suis restée telle que j'étais. Mais eux, qu'est-ce que vous voulez, ça nous éloigne, c'est le diplôme, vous savez. Moi, je ne suis pas du même milieu, je les comprends, mais moi, je n'aurais pas changé. Que j'aurais été...
Leur situation les a changées.
Ah oui.
Mais j'ai vu quelqu'un qui est très, très, très chaleureuse. Madame Heller, vous la connaissez?
Oui, oh, je l'adore. Je l'adore.
Oui, moi,
je l'adore.
Elle est très aussi très chaleureuse.
Oui. Très. Quand elle vient ici, c'est un grand amour. Et les maris, elle, tous.
Adorable.
Oui. Ils viennent, je les invite pour un dîner, pour un goûter, tout ça. Les Roussac, chaque fois quand je faisais une fête pour la naissance des enfants, ils étaient toujours là. Pour un mariage. Pour
une fois, tu les as invités ici.
Oui, ils étaient là aussi. Avec ma professeure de Pologne. Enfin, c'est grâce. Ah oui, parce qu'on a fait d'abord une fois ici une réunion du comité. Et une fois, j'ai une professeure de Pologne du lycée qui m'appelle ma petite Rouchka, enfin ma petite Rosette. Elle m'aime beaucoup aussi. Elle a dit, votre mari, il est tellement chaleureux, mon mari aussi. Il est même hypersensible. Il a le cœur que, quand il voit que quelqu'un, je sais pas, moi j'appelle ça même la sensiblerie. C'est même maladif, c'est cœur qu'il a tellement. Tout de suite, il prend à cœur, tout de suite. Alors, quand elle a été déjà là-bas, la notre mère, elle m'a avoué, tu sais, je me sens mieux chez toi que chez les autres. Je sens le cœur, je sens le cœur. Ça fait plaisir quand on entend ça. Mais, que voulez-vous savoir encore? Je bavarde. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en sortirez.
Quand vous êtes partie donc à l'automne 33 en France,
oui.
Comment ça s'est passé le départ, l'arrivée à Paris?
L'arrivée à Paris. Attendez, alors là, c'est quelque chose. Je suis arrivée, on a voyagé 36 heures, une nuit et deux jours, ou deux nuits et un jour, je ne me rappelle pas.
Ah oui.
En train. Oui, parce qu'on est arrivé après la nuit. Donc, deux nuits, je suis partie le soir, le lendemain, toute une journée, et la nuit d'après. Mon frère qui m'avait écrit dans la lettre, tu sais, quand il viendra, il habitait rue Lafayette. Il dit, quand il viendra, tu ne seras pas loin de la gare, on aura peut-être... Tu sais, on n'aurait pas eu besoin même de prendre un taxi, mais pensez, j'avais des valises, et des victuailles, vous savez, et des choses, vous savez, que je ne les porte plus après, vous savez.
Vous avez emporté
des vêtements, ma sœur, comme on ne pouvait pas faire, pour vous dire que ma sœur, celle qui est là, on avait trois avec les cousins qui étaient à travailler dans un grand atelier, était tailleur pour dames. Il lui a fait chaque fois un manteau. Nous, on achetait le tissu, lui, il faisait un manteau. On a retourné le manteau de l'autre côté, on l'a arrangé pour moi. Je suis venue avec trois manteaux comme ça. Et les cousins étaient à Paris. Quand il a vu ce manteau, il dit, il faut que je te fasse un manteau tout de suite d'un autre. Ils étaient très jolis. Très jolie. Elle m'a même donné, elle est aussi, elle, c'est le même cœur que mon mari. Elle m'a donné, et que mon frère Marcus, celui qui a été fusillé. Il m'a donné sa montre en or. Elle était déjà fiancée. Enfin, tu as besoin d'une montre qui va être étudiante. Très, très bien.
Votre arrivée sur Paris, ça m'a alors, fait le film, là, le coup de Sirocco.
Ah oui. Alors, vous savez, il y avait Tounia qui apprenait le français. Elle avait une histoire qu'elle a appris qu'à Paris, en France, enfin à Paris surtout, les chauffeurs, ils font des blagues aux étrangers, que quand on leur dit l'adresse, ils les tournent tout autour de la place et après qu'il a remarqué que cet hôtel est en face de l'autre coup qu'il a été. Il l'a fait payer, il a tourné, pas seulement sur la place, tout autour de Paris, pour faire payer. Alors moi, comme la Pologne était très... En Pologne, les vols étaient... Comme maintenant ici, vous savez, c'était déjà en 1933, quand on posait la valise à la gare, vous vous retournez, il n'y avait plus de valise. Alors, j'avais peur qu'il me fasse la même blague. D'abord, j'arrive, je regarde, je ne vois pas mon père. On ne s'était pas reconnus, moi toute petite. Lui, il était avec des amis, donc il parlait peut-être, enfin, il ne m'a pas remarqué. Et j'étais avec d'autres étudiantes qui venaient déjà pour la deuxième fois. J'ai dit, écoutez, comment faire? J'ai les bagages. J'ai dit, attendez, je vais vous appeler un porteur. Oh, j'avais peur qu'il ne me l'emporte pas. Elle dit, mais vous en faites pas. Alors, il t'amène jusqu'au taxi. Alors, je le paye, j'attends à côté, il va chercher des taxis. Là où on attendait devant, et je lui donne de l'argent pour qu'il fasse la monnaie. Et je ne voyais pas tout de suite venir, j'ai dit ça y est, il est parti avec l'argent. Il est revenu, il m'a donné la monnaie. J'avais quelque chose comme 10 francs, tout juste. Et je savais compter jusqu'à 10. Pourquoi que je ne le savais pas? J'avais celui-là qui m'a donné quelques leçons d'anglais. Il voulait me donner des français. Mais alors, je lui dis, pensez-vous quand j'irai là-bas, je parlerai. Mais c'est le latin qui m'a aidé. Comme mon frère, il m'a dit, tu sais, ça fait à peu près 500 pas. Pour faire comprendre au chauffeur que ce n'est pas loin, je lui dis, je lui donne l'adresse écrite, je dis 5 centum passus. 5, ça fait 5, centum, ça fait 100, passus, pas. Il a compris, il a ri. Et je vois qu'il me tourne. Je n'arrive pas, comme mon frère, il a dit, pourquoi? Parce qu'il y avait des travaux d'un côté, il était obligé de contourner. J'arrive dans la cour, il y avait la concierge qui savait que je devais venir. Alors, elle dit, votre frère, ouh, elle a dit, j'ai compris, on pouvait deviner ce qu'elle voulait dire, que votre frère est à la gare et puis vous ici. Alors, je mets les bagages dans la cour, il habitait dans une chambre, deux chambres mansardes au troisième étage. Et elle m'appelle que je rentre dans la loge. Je dis, oh non, elle dit, mais il n'y a pas peur, elle fait comme ça, on ne volera pas. Je laisse la porte ouverte, elle laissait la porte ouverte. D'un coup, mon frère arrive, tout va à personne, avec cet ami qui a 93 ans, qui est venu aussi à la gare, parce qu'il voulait avoir des nouvelles de sa famille, parce que quand j'étais à Varsovie, j'habitais aussi chez eux. Et avec deux amis, deux jumelles, dont une malheureusement est morte déjà, et l'autre elle habite en Espagne. Elles allaient au travail, mais elles sont venues comme je suis arrivée de très bonne heure, elles avaient le temps d'aller. Tel que vous me voyez, avec les bagages commandes, j'ai dit, venez, je vais faire un thé. Avec gâteau. J'ai dit, mais vous arrivez même. Ça ne fait rien, tout de suite. Je ne savais même pas comment il habite, quoi. Il avait, vous savez, un réchaud à alcool, un petit, un trépied à alcool. Pas les Primus qu'on allumait, mais tout simple qui n'est pas plus grand que ça avec trois pieds. Quand je mettais après, une poêle, elle se trouvait souvent renversée. Ça ne tenait pas. Alors j'ai fait, il avait quand même une bouilloire, j'ai fait un thé, j'avais apporté du thé, j'ai apporté des gâteaux, j'ai apporté des saucissons, des œufs. Des pâtes grillées, enfin, pour faire le premier temps, comme je ne sais pas parler, que je puisse faire quelque chose à manger.
Vous avez donné tout ça au bout de Varsovie?
Non, mais mes parents.
Mes parents, oui.
Les valises entassées, des vieilleries, enfin, des choses pour bavoir qui s'est quitté le téléphone. Bref, mon frère, il habitait, donc je faisais la cuisine pour lui aussi, pas du tout. Ici. Qui?
Ici.
Non. Il était le plus fort, il était au lycée Charlemagne, il était le plus fort en philosophie. Un garçon très, très intelligent. Mais il a son caractère. Alors, il avait une femme qui l'examinait en philosophie et qui lui a posé une question qui tirait sur la politique. Alors, lui, il a dit son point de vue. Elle l'a corrigé, elle trouvait. Alors, lui, il a dit non. Et elle ne l'a pas laissé passer. Alors, il dit, tout ce que je vais faire, je n'ai pas besoin de ce bout de papier. Il m'a dit, tu vois, qu'est-ce que ça t'aurait fait du mal d'avoir ce papier de Bachot? Moi, je me sacrifie, son père est architecte. Son oncle est directeur des expéditions polaires. Sa mère bien-aimée était à l'Académie des Beaux-Arts. Son frère est licencié, je ne sais pas, quel est directeur, instituteur ou quelque chose. Et la tante du côté de sa mère est professeure à l'Université de Vincennes. Donc, il avait un milieu intellectuel et il a hérité les bonnes mains de sa mère aussi et de son père, parce qu'être architecte, il faut avoir de bonnes mains aussi. Alors, tout seul, sans avoir fait l'apprentissage d'une école ou quoi, parce qu'il y a des écoles, et il a fait d'abord, il a dit, je vais faire mon service militaire. Et au retour, il avait le droit de faire un cours de chaudronnerie ayant une bourse. Pendant 6 mois, qu'il a passé le premier coup au bout de 6 mois. Il voulait faire un autre, le contre-maître, enfin celui qui l'apprenait, voulait le faire monter tout de suite un cours plus haut. Mais le directeur, il a dit non, il faudrait qu'il travaille un petit peu là-dedans. Et après, donc il a travaillé un an dans une usine, et après il a fait l'autre cours aussi.
Pardon, allô?
Je vais en prendre un.
Oui. Je ne sais pas lesquels pieds mouillés.
Je vais vous dire ce qu'il y a dans celui-là. Pas d'amande.
je vais écouter autour, comme ça je saurai qu'est-ce qu'il y a. Pas mal. Quand il est venu nous présenter sa fiancée, qui venait d'arriver de Pologne. Et puis, on parlait polonais, bien entendu. Alors, elle me dit, vous êtes déjà longtemps ici en France, en polonais. Alors, je dis, le premier 6 mois, ça faisait 5 ans déjà. J'ai dit, le premier 6 mois. Alors, elle a dit, j'ai compris que ça ne fait pas longtemps que vous êtes là parce que vous parlez encore bien très polonais. Et elle, elle parlait mal. Alors son fiancé lui dit, tu sais Anne, c'est difficile d'oublier ce qu'on a bien su, ce qu'on connaissait bien. Mais c'est difficile de l'oublier, c'est vrai.
Oui. On en était à votre arrivée à Paris.
Oui, alors je suis montée avec ces gens-là qui m'attendaient, que je ne connaissais même pas, sauf ce monsieur que je connaissais, mais ça, c'était 2 filles jumelles dont les parents étaient des amis de mon frère. Je les ai amenés, je leur ai fait donner un thé avec gâteau. Et après, j'ai dit, bon, on va aller. Mais comment qu'on peut aller? Une qui a perdu un talon. Elles étaient grandes. Alors, je dis, j'ai pas réfléchi. Je dis, je vais vous donner une paire de chaussures à moi. Et moi, je chaussais du 36, 36, 36 et demi. Et elle chaussait du 39. Alors, elle dit, on ne pourra pas rentrer. Enfin, on est devenus de très bonnes amies depuis. Et le lendemain, tout de suite, elles m'ont amené. Le lendemain, ça c'était vendredi, et le lendemain c'était samedi. Ses parents, les parents à ces deux jeunes filles, m'ont invité pour le déjeuner. Alors, elles sont venues me chercher. Elle dit, tu sais, la concierge nous a dit que toi, c'est sûrement toi qui a bouché le cabinet. Vous savez, là, quand on a une mansarde, on n'a pas de cabinet dedans. C'est sur le palier. Alors, j'ai dit le cabinet. Je te dirais franchement, je ne sais même pas où il est. C'était une voisine qui était une Allemande. Et elle a... Et puis, oui, que j'ai... avec quoi? Avec du chou. Je dis, je n'ai même pas fait la cuisine. D'où est-ce que j'ai le chou et tout ça là? Alors, il s'est avéré que c'était la voisine. Quand elles l'ont expliqué à la concierge, elle ne sait même pas où qu'il est au cabinet. Elle n'a pas encore fait. C'était juste le lendemain, vous comprenez? Et elle m'a dit, c'est la chipie, moi, l'Allemande, qui a fait. Elle a fait, elle voulait parler sur vous. Et après, quand il fallait, bon, le premier temps, j'avais encore les saucissons, les œufs, les pâtes, je pouvais encore faire quelque chose. Mon frère, il m'a dit, tu sais, il n'y a pas loin d'ici, il y a le marché Saint-Quentin, vous savez, là. Mmh. Alors, j'allais au marché, et comme je ne savais pas comment ça s'appelle, je voyais des belles tomates. Devant, je dis, ça, c'est marqué livre, je sais lire, livre, une livre. J'arrive à la maison, les tomates sont pourries. Bon, je dis rien. Je vois de la viande, la blanquette, veau. Je ne savais pas comment que je préparais. Je les faisais frire comme une côtelette de veau. Ce n'était même pas une côtelette. Alors je dis ça aussi, c'était blanc, tout ça. J'arrive. C'est entre le rouge et le noir. Alors là, je suis retournée. Et je dis, je montre, voilà. Ici, comment c'est, et là, vous. Va-t'en dans ton pays si ça ne te plaît pas. Tu comprends? Vous savez, c'était ma petite amie, j'ai quand même appris à m'exprimer. Mais une fois, je me rappelle, il y a quelqu'un.
Combien d'années à peu près? Combien de temps il t'a fallu pour savoir bien le français?
Je suis arrivée en 33, en 36. Je lisais tout, je comprenais beaucoup, mais je n'osais pas parler. Pour ne pas faire des fautes.
Donc il t'a fallu 3 bonnes années pour savoir
correctement. Et j'ai appris beaucoup en apprenant les chansons. Je ne pouvais pas retenir les paroles si je ne savais pas comment ça s'écrit. Et c'est pour ça que je ne suis pas très mauvaise en orthographe non plus. Il a fallu que je sache comment que ça s'écrit. Alors à ce moment-là, je représentais la feuille, je retenais les paroles. Et qui a oublié encore de vous dire comment c'était, comme on habitait, on avait ces vérandas, que c'était les Champs-Élysées, si vous voulez, qu'on passait. C'est... Alors, quand on était tous ensemble pendant les vacances, mes deux frères, toute la famille, on se mettait à chanter. Et mon frère, bien aimé, celui qui était cuisinier ici, il a chanté dans une chorale, dans une synagogue, étant jeune, à Gostinin, pas loin de Plotsk. Il était au lycée là-bas. C'était encore du temps de russe, probablement. Il chantait très bien. Et tous ont chanté bien. Mais moi, j'avais la voix la plus forte, un soprano clair. Et il y a des chansons, on chantait à trois voix. Donc moi, lorsque lui, il devait répéter la phrase de la chanson, toute la phrase, trois fois, moi, je devais tenir le son. Si moi je n'étais pas là, les autres ne pouvaient pas le faire. Et maintenant, j'ai gagné aussi chez un docteur en m'occupant d'un bébé, comme j'avais fait les cours de puériculture. Elle, la doctoresse, elle était à prison post-couche, pas spontanée, mais enfin lui il était médecin. Alors elle voulait partir, elle voulait laisser sa gosse, pour ne pas avoir du travail, avec quelqu'un de confiance. Et la sœur de ce médecin était avec moi à l'université pour apprendre au cours de la civilisation française. Tantôt elle venait chez moi apprendre, tantôt c'est moi qui allais chez elle. Donc je les ai connus. Malheureusement, cette fille, elle était roumaine. Elle est tournée en Roumanie. Elle était atteinte de phtisie. Poitrine, enfin, c'est phtisie, quoi. Oui. Et on l'a opéré, on l'a enlevé de côte, enfin ça n'a rien donné. Et puis, alors ils ont gardé quand même le contact avec moi, ils m'ont proposé. Et j'étais à ce moment-là au kibbutz. On avait formé un kibbutz, vous savez ce que c'est? Une communauté. Oui, c'était une préparation pour partir en Israël. Si on est capable de vivre en communauté, où il n'y a pas moi, c'est à moi, c'est à nous. Vous comprenez?
C'est une sorte de stage.
Oui, un stage. Alors, comme eux, ils me payaient, je suis allée là-bas pour donner l'argent dans la communauté. Et j'en dormais une fois. Cette médecin travaillait chez un plus grand, chez Hirschberg, à Bobigny. Et il a amené sa femme chez eux. Ils avaient presque un palais où elle pouvait se reposer, loin de la gosse. Et elle m'avait laissé avec la bonne. Et elle m'avait, pour que je connaisse la bonne et que je voie l'enfant, elle m'a invité le dernier dimanche pour manger le déjeuner. Elle a fait de moules. Et je trouvais que c'était très bon. Quand elle était partie, le jour du marché, Eugénie, je me rappelle son nom, elle dit, mademoiselle, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Je dis, qu'est-ce que vous avez l'habitude? Comme hors d'œuvre, qu'est-ce que vous avez? Oh, avec madame, on prend des moules souvent. Elle était bretonne, donc elle pouvait s'y porter. Moi, c'était tout nouveau chez moi. Alors, je dis, bon, prenez, comme c'était pas litre, prenez 1 demi-litre. Je dis, 1 demi-litre, avec madame, nous, on mange 2 litres. Je dis, bon, prenez 2 litres. Mais elle n'a pas, sûrement pas bien préparé. Il y avait sûrement une morte dedans, une ou quelques mortes. Et moi, je suis tombée sur celle-ci. Et j'ai senti que je ne pouvais pas, je n'ai même pas mangé les 2 litres, j'ai mangé peut-être 15 ou 20, et elle a mangé tout. Elle a eu une indigestion, par excès de... Mais moi, ça m'a bloqué. Je baillais, enfin, finalement, j'ai fait une intoxication anaphylactique, quelque chose qui est très rare. Et au premier étage, il y avait aussi, leur ami aussi, un Roumain, qui était encore étudiant en dernière année de médecine. Il habitait avec sa femme. Il montait voir si je m'occupe bien, tout ça. Et je lui dis, Jules, on se tutoyait. Jules, je dis, je ne sais pas, j'ai sorti des marches sans ici, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a fait ça. Il dit, tu sais, si c'est sur les moules, qu'est-ce que tu as mangé? Je dis, des moules. Il dit, probablement, ça peut être que je n'ai pas bien nettoyé, t'as dit. Tu sais ce que j'aurais fait? je dois le traiter avec l'auto-hémothérapie. Ça veut dire prendre mon sang ici et me piquer dans les fesses. Propre auto-hémo, de propre sang, soigné. Alors, comme il a dit ça à l'autre docteur, que j'ai un petit peu, que je suis un peu dérangée, du mais non, on ne va pas la piquer, la pauvre, ça se passera, comme ça. En attendant, ils m'ont appelé que je vienne avec la gosse en taxi, parce que la mère voulait la voir, chez le docteur Hichbert. Bon, ben, soit. Et là-bas, une grande maison, de grands bourgeois, vous savez, c'est le monsieur qui sert à table. La bonne donne le plateau et lui, il sert. Et il y avait un odeur, la tête de veau dans la vinaigrette. Je savais que pour des démangeaisons sur le vinaigre, ce n'est pas conseillé. J'ai dit, pardon docteur, vous m'excuserez, je ne voudrais pas manger. C'est ça, c'est avec du vinaigre. Je sens quelque chose que je n'ai pas digéré. Dépensez-vous, vous êtes entouré de médecins, qu'est-ce que vous avez peur? J'ai trouvé que c'était bon, j'ai mangé. Il me donne encore une fois. Les soirs, c'était le quatrième jour, je me suis arrêtée d'uriner. Je n'urinais plus. Et j'ai commencé à sentir les boutons. Je suis devenue eczématisée. C'est devenu même un eczéma soignant. Alors le docteur, celui du premier étage, l'étudiant, il m'a dit, tu sais, ça ne va pas. Je ne pouvais pas, quand je me couchais, j'enflais. Je dormais assise, vous savez, dans un canapé, vous savez, qui s'ouvre. Je n'ouvrais pas du côté de la tête et je restais comme ça, assise, et comme ça, je dormais comme on peut. Donc, comme ça. Quand il a dit, alors le docteur Hichbert, il a dit, attends, je vais vous donner une lettre pour le professeur Gerson à Saint-Louis. J'étais tellement un monstre, mon frère, il avait peur que je resterais un monstre. Les yeux presque fermés.
L'histoire des moules, hein?
Oui, des moules. Et mes deux camarades jumelles qui sont venues à la gare sont venues me voir parce qu'elles aussi, elles étaient au kibbutz. Elles sont venues me voir parce que je ne suis pas venue le dimanche les rendre visite. Alors, elles sont venues le soir et moi, je parle avec elles et je ris. Elles disent, toi, Thierry, Rouchka, moi, je me tuerais si j'avais, au lieu de me remonter le moral. Elles m'ont dit. Et mon frère bien-aimé, il m'a dit, après, tu sais, je pensais que tu avais peur. Et je suis allée chez le professeur Gerson, dans un taxi, caché jusque-là avec un foulard.
Tu pouvais chanter.
Pour qu'on ne voie pas en sortant comment que je suis.
Tu pouvais chanter la chanson de plus de la pêche au moulement.
Ah oui. Et le professeur, il est venu. Et moi, je portais un corsage roumain, brodé, vous savez, qu'on pouvait ouvrir. Et il me demande, seulement chez vous? Ici, j'ai dit non, j'ai ouvert, là aussi, que je commençais ça. Qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai dit, je crois que ce sont les moules qui m'ont fait. Parce que c'est après d'avoir mangé les moules, il a appelé tous les étudiants de son service pour montrer. Il a dit, venez voir un cas exceptionnel, très, très intéressant. Alors, j'ai dit, professeur, c'est peut-être intéressant pour vous, mais pas pour moi. Il a ri. Pas pour moi du tout. Enfin, il a dit la même chose que les jeunes médecins. Auto-hémothérapie, mais il m'a ajouté dans cette piqûre, je crois, du calcium ou quelque chose d'autre. Je ne me rappelle pas. Tous les jours, une piqûre. Régime lacté strict.
En combien de temps t'as été guéri?
Oh, ça durait. Ça durait seulement au bout des 8 jours. Je pouvais déjà enlever les foulards lorsque je sortais. Et avec la gosse, le médecin d'en bas, là, m'a dit, je te laisse pas avec les gosses. Ils ont pris les deux, la femme et lui, ils avaient un litage. Ils m'ont ouvré un litage, j'étais chez eux, ils m'ont soigné. Et c'est comme ça que j'ai
dit. Comme on a fait du nord, ils ont un foulard.
Un foulard.
Ouais, c'est ce qu'il y a avec le visage.
Ah oui, là, même au cinéma, les jeudis, ils avaient l'habitude d'aller au cinéma. Ils disaient, on va au Sim-Sim, ils disaient comme ça. On va au Sim-Sim, et on aime, moi aussi j'aimais. Alors voilà, avec mon foulard, quand il y avait, quand c'était déjà sombre, j'enlevais tout le temps. Mais je suis comme un sujet un bon voilà.
Bien, oui, ce que je voulais vous demander, c'était d'abord déjà le maximum de choses, de souvenirs.
C'est ça. Mais est-ce que je peux vous dire que de ma ville,